L'Iran a averti les États-Unis qu'il ne tolérait aucune agression contre son territoire et ses intérêts et qu'il donnerait une réponse décisive aux menaces brandies par le secrétaire d'État et le conseiller américain à la sécurité nationale. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a capturé un drone espion israélien au-dessus de la bande de Gaza assiégée. Et en Tunisie, le président Kais Saied procède à un remaniement ministériel partiel. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un groupe d'entrepreneurs, de producteurs et de chefs d'entreprise basés sur le savoir ont rencontré lundi 30 janvier le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Le renforcement du statut d'un pays est largement lié à sa situation économique. Lorsque la monnaie d'un pays s'affaiblit et que ses actifs économiques diminuent, sa crédibilité dans le monde diminue. Pour maintenir notre statut dans le monde, nous avons besoin de croissance économique, a souligné le leader de la révolution islamique. C'est un honneur pour chaque pays d'avoir une main-d'œuvre jeune et qualifiée. Toutefois, si celle-ci demeure sans emploi, ce sera pour le pays une situation déplorable. Le gouvernement se doit de leur fournir du travail. Dans le monde actuel, nous devons faire en sorte que les produits iraniens soient compétitifs sur le marché de l'exportation, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la qualité du produit final et réduire le prix du produit fini. C'est l'une des plus importantes mesures à prendre. Vous devez agir de telle sorte que personne ne puisse vous forcer à vendre des produits iraniens sous le nom d'un autre pays. Au lieu de marquer les produits avec l'inscription « Made in Iran », vous pourriez même employer l'écriture persane pour cette inscription. Le guide suprême de la révolution islamique a fait ses remarques dans le cadre d'une campagne gouvernementale visant à encourager l'augmentation de l'activité manufacturière en Iran comme moyen de diversifier l'économie loin des revenus pétroliers. L'Iran a enregistré des périodes successives de croissance de son secteur manufacturier depuis que les exportations de pétrole du pays ont été soumises aux sanctions américaines en 2018. L'Iran a averti les États-Unis qu'il ne tolérait aucune agression contre son territoire et ses intérêts et qu'il donnerait une réponse décisive aux menaces brandies par le secrétaire d'État et le conseiller américain à la sécurité nationale. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, a mis en garde lundi 30 janvier le gouvernement américain contre les responsabilités juridiques et internationales de ses propos menaçants à l'égard de l'Iran et les répercussions qui en résultent. Lors d'une interview accordée à la chaîne d'information Al Arabiya, dont le texte a été publié dimanche 29 janvier, Anthony Blinken a déclaré que l'Iran avait rejeté l'occasion de revenir dans le plan global d'action conjoint PEGAC à la fin de l'été dernier. Malheureusement, ils ont rejeté ce qui était sur la table et avait été accepté par tout le monde, a déclaré le secrétaire d'État avant de poursuivre. Maintenant, les États-Unis sont concentrés sur de nombreuses choses qui se sont produites depuis. Plus loin dans ses propos, Blinken a prétendu que les manœuvres militaires avec Israël et d'autres pays du Golfe Persique étaient destinées à dissuader les activités de l'Iran dans la région. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a évoqué que l'Iran a souligné à maintes reprises que ses activités nucléaires étaient pacifiques, comme le confirment de nombreux rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et que la fabrication d'armes nucléaires ne faisait pas partie de la doctrine de sécurité nationale de l'Iran. Dans le même temps, a déclaré Kanani, l'Iran n'a pas arrêté ses progrès scientifiques et technologiques dans le domaine nucléaire et poursuivra son développement autant que nécessaire et sur la base de ses droits inaliénables en tant qu'État membre du traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a dénoncé les responsables de certains pays européens qui instrumentalisent les droits de l'homme pour s'ingérer dans les affaires des autres pays. La politique principale de l'Iran est le respect des principes fondamentaux des droits de l'homme, notamment la dignité humaine ainsi que la lutte contre l'oppression, a-t-il dit, précisant que les faux défenseurs des droits de l'homme sont complices de violations éhontées des droits de l'homme en soutenant les dirigeants et les membres de groupes terroristes dans leur pays. Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, ces pays européens gardent le silence face au massacre quotidien des Palestiniens par Israël et soutiennent l'agression et l'occupation de ce régime infanticide. Malheureusement, sous prétexte de défendre le principe de la liberté d'expression, la France considère la réaction des musulmans contre l'insulte au noble Coran et à leurs valeurs sacrées comme une atteinte à la laïcité. Indiqué M. Kanani, ajoutant que la France a oublié que l'interdiction de critiquer le régime sioniste est une violation indubitable du principe de la liberté d'expression. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a conclu « Il est évident que de telles contradictions comportementales, ainsi que le double standard des Occidentaux, ne seront pas ignorées par les peuples indépendants et les épris de liberté du monde entier ». Pour rappel, le 21 janvier à Stockholm, Rasmus Paludan, leader extrémiste suédo-danois du parti Ligne dure, profanait un exemplaire du noble Coran en y mettant le feu, suscitant ainsi une vive réaction des musulmans à travers le monde. Ce geste ignoble a également été répété par un extrémiste islamophobe à La Haye, aux Pays-Bas, le lundi 23 janvier. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a capturé un drone espion israélien au-dessus de la bande de Gaza. Selon les médias palestiniens, dimanche 29 janvier, la branche militaire du Hamas, les brigades des Edin al-Rassam, ont saisi l'avion multirotor Hexacopter et en ont extrait des informations sensibles. Les brigades al-Rassam ont pu capturer à l'aube du vendredi 27 janvier 2023 un drone israélien qui était en mission spéciale à l'intérieur de la bande de Gaza, ont indiqué les brigades dans un communiqué. Nos ingénieurs ont extrait du drone des informations importantes et sensibles liées aux forces d'occupation. Israël a gardé secrète la disparition de son drone jusqu'à ce que le Hamas ait annoncé qu'il avait le drone à sa disposition. Un responsable israélien a reconnu dimanche qu'un tel drone avait atterri à Gaza lors d'une activité opérationnelle vendredi dernier. La semaine dernière, Israël a lancé des frappes aériennes sur Gaza, un jour après avoir tué 10 Palestiniens en Cisjordanie occupée, incitant la résistance palestinienne à tirer des roquettes sur les territoires occupés en représailles. Des avions de guerre israéliens ont frappé jeudi soir et vendredi à l'aube des zones à l'ouest et au sud de Gaza, y compris des postes appartenant à la résistance. Au cours des derniers mois, Israël a également intensifié ses attaques contre des villes palestiniennes dans l'ensemble des territoires occupés. À la suite de ces attaques, des dizaines de Palestiniens ont perdu la vie et de nombreux autres ont été arrêtés. Plus de 170 Palestiniens, dont au moins 30 enfants, ont été tués en Cisjordanie et à Rotzest l'année dernière. Rien qu'en janvier 2023, plus de 30 Palestiniens, dont 5 enfants, ont été tués par les forces du régime sioniste. Le président tunisien Kais Saïd a décidé d'effectuer un remaniement ministériel partiel au sein du gouvernement dirigé par Mme Najla Bouden, annoncé lundi 30 janvier dans la soirée la présidence de la République tunisienne. D'après la même source, deux ministères sont concernés par ce remaniement, à savoir le ministère de l'Éducation et celui de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Mohamed Ali Bourdiri a été nommé ministre de l'Éducation à la place de Fethi Selaouti et Mohamed Monim Belati a été désigné ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche à la place de Mahmoud Elyez Hamza, selon un communiqué de la présidence tunisienne. Le chef d'État tunisien avait procédé il y a environ 3 semaines au limogeage de la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Fazila Rebi. Le président de la transition soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, et son homologue tchadien, Mahamad Idriss Déby, ont exprimé ce 29 janvier à N'Djamena leur volonté de renforcer la force mixte Tchad-Soudan, une force créée en 2005 pour patrouiller les 1000 km de frontières communes des deux pays. Ce 29 janvier a eu lieu une rencontre entre le Soudan et le Tchad. Le président de la transition soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, était en effet à N'Djamena où il a discuté avec son homologue Mahamad Idriss Déby. Il a été question de diplomatie, d'économie et surtout de sécurité. Les deux chefs d'État ont indiqué vouloir renforcer la force mixte Tchad-Soudan, une force créée en 2005 pour patrouiller les 1000 km de frontières communes et qui est tombée en léthargie ces dernières années. et disent vouloir renforcer les échanges, notamment en matière d'information et de renseignement entre les services de sécurité des deux pays, ainsi que la coopération judiciaire. Cette volonté d'accentuer les échanges intervient alors que les incidents à leurs frontières communes sont réguliers. Pour rappel, il y a 6 mois, un vol de bétail avait dégénéré en affrontement intercommunautaire et s'était soldé par une 30aine de morts. Et puis, il y a cette autre inquiétude pour N'Djamena, souligne un chercheur. Des informations récentes font état de la présence de groupes armés et surtout d'une nouvelle rébellion dans le sud du Tchad, cette fois-ci à la frontière avec la Centrafrique. À terme, N'Djamena voudrait également réactiver sa coopération sécuritaire avec Bangui. Pour finir, les chefs d'État ont décidé de tenir un forum sur la sécurité et le développement avant la fin de l'année à Abéché. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Cyberguerre, talon d'Achille des missiles hypersoniques US. La fameuse US Air Force va devoir refaire certaines étapes dans le tir à titre d'essai de son nouveau missile hypersonique. À en croire le site web Air and Space Forces, le directeur des tests et des évaluations opératoires du département de la défense américain l'a souligné dans son rapport annuel au Congrès. Au cours d'actions pour tester un missile hypersonique sur le plan opérationnel, l'armée de l'air a ignoré certaines étapes. C'est pourquoi elle va devoir revenir en arrière et régler les problèmes qui surgissent. L'US Air Force a prétendu en décembre dernier avoir testé avec total succès un missile hypersonique AGM, tandis que le rapport du Pentagone conclut que le test du missile avait été effectué avec un plan d'essai non confirmé, ajoutant que ce missile reste vulnérable de facto face aux perturbations cybernétiques. En plus, les tests effectués sur le missile n'ont pas été suffisants et l'ogive du missile aussi a révélé des lacunes. Le missile AGM est une production de Lockheed Martin qui l'a construit et envoyé au marché assez rapidement sur commande du ministère américain de la Défense en pleine course aux armements avec une Chine réputée être bien en avance dans le domaine de la technologie de missiles hypersoniques. Maintenant, le Pentagone confirme que ce missile, qui a été tiré lors du test depuis un B-52, n'a pas encore les compétences d'assaut dignes de son nom. Alors que l'armée de l'air américaine enchaîne les échecs dans les tirs à titre d'essai de divers types d'armes hypersoniques, le ministère russe de la Défense a récemment testé avec succès un missile Zircon. Tiré depuis la frégate Admiral Gorshkov en mer Blanche, le missile Zircon russe a réussi à atteindre sa cible à une distance de 350 km sur les côtes de la mer de Barents. Un communiqué du ministère de la Défense de la Fédération de Russie précise que ce missile a atteint Mach 7, une vitesse de 8643 km par heure, et ce tir à titre d'essai a confirmé les avantages techniques et tactiques envisagés au sujet du missile hypersonique Zircon.